Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue, chers compagnons, sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Dans chaque épisode, nous étudions l'actualité de notre mouvement ou du cloud en général. Puis, nous débattons sur un sujet de fond. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti! Bienvenue à tous dans ce cinquième numéro de Radio DevOps. Alors, pour information, on enregistre ce podcast le 3 avril 2020 et pour vous, a priori, il sortira en mai et on sera probablement sorti de confinement. Mais à l'heure où on enregistre, on est toujours en confinement. Et pour ceux qui se demandent si on risque quelque chose, eh bien non, parce que Radio DevOps, depuis le début, est un podcast qui est enregistré en full remote. Donc, on ne risque rien. Je suis aujourd'hui avec Damir et Erwan, et je vais le laisser se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Damir, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Alors bonjour, moi je suis Damir, je suis ingénieur cloud et DevOps, et j'aide du coup des clients à aller sur le cloud et à aller dans le mouvement DevOps, donc à développer des applications plus rapidement et à les déployer encore plus vite. Et je partage pas mal mes expériences techniques et autres sur mon blog, donc damir.fr.
Et moi, Erwan, ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille dans le milieu du sysadmin en général, donc rejoins la mouvance DevOps depuis plusieurs années. Je travaille essentiellement dans des petites structures startup, et puis voilà.
Et moi, c'est Christophe, je suis partie du collectif de freelance Lydra, et on aide nos clients à déployer leurs applications sans couper leurs services et à faire des transitions DevOps. Et aujourd'hui, on vous a préparé quelques actus, et Damir va nous parler de coronavirus, et notamment des sites scolaires qui tombent face à l'affluence. Damir, on t'écoute.
Alors oui, comme on vous l'a dit au début, on est encore en confinement, donc on est plutôt, je pense, vers le milieu de la période de confinement total. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un gros secteur qui a été impacté par le confinement, c'est l'éducation nationale. Donc du coup, ben, les élèves n'ayant plus l'accès aux écoles et aux centres éducatifs ont été du coup redirigés pour travailler de chez eux. Donc sur le papier, le plan est très bien, il n'y a pas de souci. Et pour ça, il existe ce qu'on appelle un plan de continuité pédagogique qui est édité du coup par le ministère et des instances du coup de l'éducation nationale. Le petit souci, c'est que sur ce plan, en fait, il donne plusieurs manières de faire, les outils à utiliser, et il cite notamment beaucoup, en fait, un outil que je pense pour beaucoup d'entre vous connaissez bien, qui sont les outils de Framasoft. Donc sur l'idée, c'est très bien, ils encouragent à aller vers du libre, aller vers des choses qui ne sont pas fermées. Par contre, ça pose un gros souci, et ça a posé un gros souci, c'est que Framasoft n'a de un, pas pour but d'être un SI de substitution au manquement de budget à l'éducation nationale. Et ensuite, ça fait quand même une forte influence, que vous en doutez bien, pour Framasoft, qui est, je le rappelle, même si c'est assez gros, c'est encore une association, il y a très peu de gens qui y travaillent, il n'y a pas les mêmes moyens qu'un vrai SI d'entreprise de si grosse taille. Ça a tout simplement fait un fort trafic, même s'ils ont plutôt bien résisté. En fait, ils ont été obligés de réagir et de rajouter un petit encart pour dire que c'est pas à eux, tout simplement, de combler les manques de budget qui sont inhérents à l'éducation nationale, notamment sur la partie technologique et des SI. Donc ça a fait pas mal parler, parce que les gens sont un peu offusqués que Framasoft, entre guillemets, demande aux enseignants de ne plus utiliser leur service. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils visent pas les professeurs, ni les administrateurs de l'éducation nationale, qui eux, tout simplement font avec leurs moyens. Je pense qu'il y a vraiment un manque de budget de ce point de vue-là, et que tout simplement, si vous n'avez pas les moyens de mettre en place des nouveaux serveurs, de mettre du scaling, des choses comme ça, vous pouvez être très bon administrateur. À un moment, vous pouvez pas faire de la magie non plus, même si tout est virtuel. Il faut une carte bancaire, il faut un compte pour encaisser, il faut des moyens pour agir efficacement. Donc du coup, Framasoft, ils visaient en fait les décisionnaires, donc tout ce qui va être décisionnaire du budget de l'éducation nationale, tout ce qui est gouvernement et instances politiques. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on voit vraiment que ce confinement en général, et particulièrement dans les administrations comme l'éducation nationale, montre, je pense, un gros manque de préparation et surtout un manque d'évolution au niveau du numérique. Bien sûr, ils s'attendent pas à avoir quelque chose, un si gros pic de trafic, mais c'est quand même quelque chose qui est, on va dire, qui doit être prévu, et il doit y avoir une notion de scalabilité des différents sites pour que les étudiants puissent suivre les cours à distance. Dans tous les cas, ils ont fini par être dispersés un peu, selon les professeurs, etc., sur différentes formules, donc souvent des logiciels privateurs ou fermés qui fournissent des comptes gratuitement, ce qui est du coup leur plus gros critère, on va dire. Donc malheureusement, on est un peu dans une situation où on fait comme on peut. L'éducation nationale a essayé de donner des solutions comme des roulements d'horaires pour utiliser des services ou les serveurs, ce qui est un non-sens au niveau technique, parce que techniquement, il faudrait que ça puisse encaisser, mais là encore, on arrive au premier problème. Donc voilà, donc on est à une situation où actuellement, bah, c'est un peu du bricolage, et on voit bien ce manque de moyens. Donc maintenant, il faut espérer que bah, le fait qu'on remonte ça et qu'on dise là, il y a un souci, là, on n'a pas été à la hauteur, puisse du coup servir à appuyer des nouveaux budgets et peut-être à redistribuer un peu les cartes pour fournir des outils de qualité aux professeurs, aux enseignants, aux étudiants et à tout le monde pour travailler dans des bonnes conditions. Donc voilà, donc je sais pas si vous avez suivi un peu effectivement un peu l'affaire du coup de Framasoft et l'éducation nationale. Donc du coup toi par exemple Erwan, est-ce que tu as entendu parler, est-ce que tu as un avis sur ce qui s'est passé?
Alors, j'avais pas entendu ce sujet-là précisément, mais effectivement, avec le confinement, il y a plein de services qui ont du mal à tenir la charge, qui étaient juste pas prêts. Et là, l'exemple que tu cites, il est assez criant, et malheureusement, ça, enfin. C'est déjà se préparer à la scalabilité de son service et de son infra et de son archi, bah c'est déjà compliqué. Mais alors là, vu la dimension dans laquelle il fallait se préparer, c'est sûr que ça demande un investissement et une préparation où ce genre de service, je pense que c'est normal, même si c'est pas excusable, mais que ça tienne pas. Et comme tu dis, c'est pas magique. Ça nécessite vraiment des équipes dédiées pour travailler sur ce genre de sujet, ou comme on pourra le voir après, des solutions dans le cloud qui peuvent aider à l'autoscaling, etc. Mais encore une fois, bah, migrer sur ce genre de solution, c'est pas magique non plus. Donc malheureusement, je pense que c'était prévisible et inéluctable.
Du coup, effectivement, après, on en revient toujours à l'histoire, même si on met des équipes ou si on part sur du cloud public, ça coûte de l'argent. Donc, on en revient un peu à la notion de budget, ce qui est un peu dommage. Je sais pas, toi, Christophe, si tu as quelque chose à ajouter là-dessus ou si tu as peut-être une autre vision du problème.
Alors moi j'avais suivi en effet les problèmes que tu cites, puisque je suis Framasoft sur Twitter et j'ai vu en effet qui demandaient de pas utiliser leur instance, ce que je comprends totalement parce que bah c'est pas fait pour, et moi ce que je déplore c'est les moyens des systèmes d'information de l'éducation nationale et de manière globale de notre État, parce que on est dans une start-up nation et on n'a pas les moyens d'avoir un système d'information nationale. Moi je comprends pas, enfin surtout que c'est pas comme si on avait beta.gouv qui pouvait aider toute l'éducation nationale à mettre en place des choses. Parce qu'on a les compétences, elles sont déjà là, et tout ce qu'il faut, c'est une volonté et un budget. Alors, ça pose aussi la question de notre souveraineté numérique, parce que quand je vois que les parlementaires, ils utilisent Zoom pour discuter en Assemblée nationale, moi, je suis totalement affairé, surtout qu'on sait depuis un moment, puis ça ressort ces dernières semaines que Zoom a des problèmes et tout un tas de problèmes. Je vous mettrai la liste des problèmes de Zoom. Si vous pouvez ne pas utiliser Zoom, c'est vachement bien. Et je vois en effet, ma compagne, elle fait une reconversion, elle suit des cours et son école, en effet, utilise Discord. Donc, comme tu dis, ça, c'est des logiciels privateurs. Qu'on n'ait pas pu prévoir c'est une chose, mais qu'on n'ait pas une solution de repli nationale, parce que l'État français, ça représente beaucoup d'employés, donc qu'on n'ait pas de système de visioconférence interne, moi, je comprends pas. Alors, je voudrais parler d'une autre... de deux autres initiatives. La première, c'est que... je sais pas si vous en avez entendu parler, mais OVH a lancé le site Open Solidarity pour justement fédérer et identifier tous les services qui ont été mis en place pour permettre justement la collaboration à distance pendant cette période de confinement. Et la deuxième, c'est Scaleway qui a mis en place des instances Jitsi gratuites pour l'intégralité des gens et qui scalent a priori et qui scalent bien. Est-ce que vous aviez entendu parler d'Open Solidarity?
Alors moi, effectivement, j'ai entendu, je suis quand même pas mal des acteurs, notamment français, là-dessus. Donc j'en ai entendu parler, et je vais ajouter une troisième initiative de la part de Scaleway, qui est, alors j'ai pas le nom exact, mais apparemment, ils ont dit qu'ils travaillent avec l'éducation nationale actuellement pour mettre en place gratuitement, en fait, des serveurs avec des instances Peertube pour pouvoir diffuser les cours, du coup, en peer-to-peer et éviter les surcharges à tous les élèves, en fait, de France. Donc je pense que c'est plutôt une bonne idée. Peertube, ça peut être pas mal. En plus, ça peut permettre de faire du stockage de vidéos, donc du coup les étudiants pourraient les regarder un peu à leur rythme en prenant des notes ou des choses comme ça. Donc c'est, en tout cas, cette solidarité entre guillemets nationale, si j'ose dire, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle et quelque chose qui doit être accueilli positivement, en espérant que ça leur donne aussi peut-être plus de visibilité auprès des gouvernements, du gouvernement et des différents ministères pour avoir après, fournir des fournisseurs officiels et quitter des solutions privées, US privatrice comme tu le citais.
Alors ce matin aussi, j'avais fait un appel sur Twitter pour chercher un logiciel de visioconférence qui fonctionnait à plus de 5. Et en fait, il s'est avéré, en discutant avec Arnaud de Birmingham, qui est le directeur de Scaleway, il me disait que ils étaient en train de déployer aussi une instance de Big Blue Button, excusez-moi, qui est en fait une alternative à Jitsi. Donc c'est et un logiciel de visioconférence et un logiciel de travail collaboratif, puisqu'il y a un tableau blanc, on peut passer des diapos et plein d'autres choses qui permettent de faire des cours à distance. Donc ça, c'est une autre chose qui va arriver, je pense. En tout cas, je suis assez impatient de le voir, parce que ça, j'ai des collègues de boulot qui l'ont testé et ça a l'air très très bien. Je vais vous parler de confinement. Nous sommes confinés et surveillés. Restez chez vous, mais habituez-vous à être surveillé. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Alors, il y a plein de choses. Le 12 mars, à Marseille, il y a le recours de la Quadrature du Net qui demandait d'annuler en urgence le déploiement de logiciels d'analyse automatisée sur les caméras de la ville, qui a été rejeté par le tribunal administratif. Le 19 mars, on sait que tous les moyens sont bons pour lutter contre le Covid-19, on savait qu'on était espionné par les GAFAM et leurs bijoux technologiques, puisque, je vous l'apprends pas, mais les enceintes connectées sont des vrais petits espions. Mais ce qu'on ne pouvait pas se douter, c'est que les gouvernements étaient jaloux. De nombreux États comme la Chine, les États-Unis, l'Italie, Israël, la Corée du Sud ou même la Belgique annoncent vouloir recueillir massivement des données de géolocalisation auprès des opérateurs de communication. Mais en France, c'est pas le cas. Oui, parce qu'en fait, c'est déjà possible depuis 2015 suite à la loi renseignement. Depuis 2015, l'État peut nous surveiller pour recueillir des renseignements relatifs à la défense des intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France. Donc ça veut dire que l'État peut demander notre localisation aux opérateurs téléphoniques. Mais ça va plus loin, parce qu'en 2013, Orange avait développé une offre qui s'appelait FluxVision. C'était une offre qui proposait à des villes et des lieux touristiques des statistiques sur les flux de déplacement des visiteurs, en fait, grâce à la géolocalisation des smartphones. Aujourd'hui, il y a le PDG d'Orange qui essaye de recycler son offre pour informer les villes sur le mouvement de leurs malades ou de leurs confinés. Bon, on peut imaginer que ça dérive et que, à l'avenir, la surveillance peut s'appliquer aux manifestants ou aux populations pauvres. Mais c'est pas fini. Le 21 mars, en fait, il y a eu un vote précipité à l'Assemblée nationale pour une loi d'urgence qui donne au gouvernement le droit de légiférer par ordonnance pour pouvoir restreindre les libertés publiques et modifier le droit du travail pendant la durée du confinement. Sauf qu'on sait qu'après les attentats de 2015, comme je vous l'ai dit, les lois d'urgence sont passées dans le droit commun. Mais bon, c'est pas grave, il y a encore de la surveillance des acteurs privés, puisque le 26 mars, quelques heures seulement après qu'une tribune des annonceurs se plaignait en fait de l'arrêt des investissements publicitaires, la CNIL a décidé de reporter l'application du RGPD sur la surveillance publicitaire. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Pour le commun des mortels, ça veut dire que les cookies qui surveillent notre navigation et qui permettent d'afficher des publicités ciblées, eh ben, est toujours autorisé. Et le 1er avril, et c'est pas un poisson d'avril, j'aurais bien aimé, mais c'est pas le cas, on a l'attaque des drones qui a commencé, puisque en France, on a basculé dans un état policier, les forces de l'ordre déploient massivement des drones pour contrôler l'application du confinement. Donc là, on est en plein cyberpunk, il y a des diffusions par haut-parleur des directives du gouvernement et de la surveillance des populations, y compris du suivi de celles qui échappent aux personnes sur le terrain pour pouvoir les sanctionner après. Donc, on sait tous que toutes ces mesures sont nécessaires en cas de crise comme celle qu'on vit, mais en fait, ce qui pose question, c'est que les lois votées, une fois qu'on a fini la crise, elle reste. Donc demain, on ne sait pas ce que nos gouvernements vont faire pour chercher à pouvoir garder ces moyens de surveillance et ces lois liberticides. Parce que finalement, la surveillance publicitaire, la reconnaissance faciale, les drôles, le confinement, c'est des choses qui nous rappellent 1984. Et en théorie, c'est pas censé être un manuel. Et encore, je vous parle pas de la neutralité du net qui est attaquée, des lois qui réduisent la protection des salariés, qui sont votés en catimini par l'Assemblée nationale, qui, comme je vous l'ai dit, utilisent Zoom. Donc bon, en conclusion, on peut réellement s'inquiéter, et je trouve que c'est perturbant, surtout que les prévisions montrent que l'épidémie, elle est pas prête de disparaître en 2 ou 6 mois. A priori, elle va se prolonger, ou elle va revenir par phase. Donc, nos vies sont confinées et contrôlées. C'est un peu déprimant quand j'avais préparé ça, je vous avoue que j'ai dû m'arrêter parce que j'avais le moral à plat. Et donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez, Damir? Qu'est-ce que ça t'évoque?
Alors, c'est vrai que, ouais, après, il y a une très forte connotation politique derrière tout ça, et je pense que ça mériterait le traitement de l'utilisation de la technologie par la politique, je pense que ça mériterait une émission à part même. Mais du coup, c'est vrai que c'est ce qui se passe actuellement. J'ai envie de dire, malheureusement, c'est classique. On a déjà bien vu quand il y a eu des problèmes de terrorisme ou des choses comme ça. Les politiques en profitent pour faire passer des lois liberticides, des lois très controversées, sous prétexte de faire de la protection, de protéger pour le pays, etc. Malheureusement, souvent, bah, comme tu l'as dit, on les intègre après dans le droit commun. C'est devenu, j'ai envie de dire, un classique. Et même si on les intègre pas dans le droit commun, on va après appuyer ça pour les faire revoter en disant... Bah, il nous faut ça, vous avez vu, on a eu ce problème à ce moment-là, et c'est ça la solution. C'est très problématique. Après, je pense qu'il y a un gros problème aussi de la classe politique, mais ça, c'est un problème vraiment politique. Mais actuellement, oui, l'éducation à la technologie, on part vers un système qui se rapproche de plus en plus d'une mauvaise dystopie. Là-dessus, c'est clair et c'est sûr. On va d'ailleurs voir, il me semble que c'est lundi, du coup, Edouard Philippe a annoncé le déploiement d'une application mobile permettant aux gens de faire leur déclaration sur mobile. Je suis pressé honnêtement de voir et de pouvoir lancer au moins un petit Exodus Privacy pour voir le nombre de trackers qu'il va y avoir dessus. Donc c'est à voir, mais moi effectivement je trouve effectivement on va pas vers le bon chemin, on n'utilise pas les technologies de la bonne façon. Malheureusement, c'est pas pour rien, c'est parce que les gens, c'est pas qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne comprennent pas la technologie, c'est que c'est dans leur intérêt de les utiliser à des mauvaises fins. C'est comme quand Orange et les grosses FAI, moins pas Orange, mais d'autres FAI disent « Ah, mais il faut reculer l'arrivée de Disney parce qu'il y a une saturation des réseaux. » C'est uniquement pour, du coup, dire « Eh ben écoutez, nous, on aurait besoin pour gérer le réseau. À terme, ce qui serait quand même bien, c'est qu'on puisse, du coup, enlever la liberté du net et se dire, ah bah attends, bah, nous, on va choisir quel flux est prioritaire, le truc là. C'est pour préparer ça aussi. Donc, malheureusement, il y a beaucoup, voilà, de choses comme ça, un peu politiques derrière, qui nous font pas aller du bon côté. Et je pense que ça, malheureusement, il faut pas changer les technologies. Faut changer les personnes qui choisissent comment utiliser ces technologies. Mais ça, comme je dis, un long débat qui pourrait se faire dans une autre émission. Je sais pas si toi, Erwan, t'as un autre avis là-dessus ou peut-être une autre vision de ces problématiques.
Ouais, c'est sûr que c'est assez saisissant et déprimant, le fait que tout un tas de choses comme ça passent en droit commun et du coup sur lequel il y aura probablement pas de rollback. Je comprends la détresse de Christophe sur le sujet, et en fait tu l'as cité quand tu parlais de ta news, mais c'est exactement ça. Si vous l'avez pas lu, faut trop lire le livre 1984 de George Orwell. Parce que c'est exactement ça. C'est comment tranquillement le contrôle des masses, le Big Brother s'installe et sur lequel justifier sous couvert de d'état d'urgence et de devoir faire les choses vite, on crée une société qui n'a plus de liberté et qui est sous le joug d'un Big Brother. Et c'est d'une tristesse sans nom. J'ai pas grand chose de plus à rajouter.
Oui, c'est un peu déprimant, et j'avoue que j'hésitais entre ça et l'attaque de la neutralité du net dont nous a parlé Damir, mais vu qu'il en a parlé, bah, on a fait les deux en même temps, parce que, en effet, on lit régulièrement que le réseau va mal, qu'il est surutilisé, mais en fait, non, il est pas surutilisé, il va très bien, en effet, les services vont pas très bien, parce que les services, eux, ne se calent pas, mais le réseau lui va bien. On peut lire 1984, et puis je vous conseille aussi de lire Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Ça vous fera des lectures pendant le confinement et ça vous permettra de peut-être réfléchir à ce qui nous arrive. Et puis bon, on va passer à un sujet un peu plus léger quand même, parce que là c'est un peu plombant. Donc Erwan, tu vas nous parler de quelque chose, d'un bug que personnellement j'avais jamais entendu. Donc je t'en prie, explique-nous.
Si, vous parlez du fameux bug de 2038. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bug? Donc du coup... Vous devez tous savoir que sur les systèmes POSIX-like, le temps est calculé c'est un nombre de secondes à partir du début de l'ère, donc de l'époque, qui est 1970, le 1er janvier 1970 à minuit. Et donc, la date de votre système est en fait donc un nombre de secondes à partir de cette date-là. Et qui est stocké dans un entier. Et sur les systèmes 32 bits, bah du coup c'est stocké dans un entier de 32 bits. Et forcément, à un moment, bah on va arriver au bout de ce stockage. Et le bout de ce stockage, bah c'est le 19 janvier 2038 à 3h du matin, 14 minutes et 8 secondes. Et donc grosse panique autour de ce sujet, parce qu'effectivement, on ne sait pas trop. Enfin, on ne sait pas trop, mais c'est que forcément le compteur arrivant au bout, on va commencer à avoir des chiffres négatifs, et du coup l'impact sur le système va forcément être assez grave, puisque la machine ne verra plus la bonne date, etc. Et donc du coup moi je pensais un peu naïvement que comme ça ne touche que les systèmes 32 bits, bah, que c'était un problème dont on était au courant, mais qu'on mettait un peu sous le tapis. Mais en fait, pas du tout. Il s'avère que les équipes qui maintiennent le kernel Linux travaillent sur ce sujet. Et en fait, non seulement elles travaillent dessus, mais en plus elles ont proposé un correctif qui sera disponible dans le kernel 5.6, dans les versions qui arrivent. Et qui sera backporté jusqu'au kernel 5.4. Et en fait, ce que va permettre ce correctif, bah, c'est justement de pouvoir aller au-delà de 2038, et donc permettre à tous les systèmes 32 bits qui auront survécu jusqu'à cette date d'aller au-delà. Et en fait, sans rentrer dans les détails techniques, ce nombre de secondes sera stocké un petit peu comme pour du 64 bits, donc sur un entier beaucoup plus grand. Cependant, bah, ça va pas être magique pour autant, c'est que au-delà du fait de devoir mettre à jour le kernel, il y a tout un tas de précautions et de mises en garde à suivre. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est très bien décrit dans les différentes communications des équipes de mainteneurs. Mais en stockant ça sur un entier de 64 bits, on arrive du coup à une fin du monde qui arrivera quand même, mais qui sera décalée au dimanche 4 décembre de l'année 29 227 702 659 à 15h30 GMT. Alors, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ce bug, mais est-ce que ça vous parle, Christophe? Est-ce que ça te parle, Christophe, du coup, cette petite news?
Ben non, j'en avais jamais entendu parler avant que tu m'en parles. Et j'avoue que la fin du monde qui arrivera aussi tard, je pense que c'est la fin du monde informatique, mais on aura d'autres problèmes avant. Moi, je me rappelle que j'avais commencé ma carrière avec le bug de l'an 2000. On avait des soucis aussi qui n'étaient pas les mêmes, mais ça avait occupé beaucoup de gens à l'époque. Et par contre, ce que tu dis, c'est que finalement, ça va occuper beaucoup moins de monde, parce qu'il suffira, en théorie, de patcher nos noyaux Linux. Ce qui m'étonne quand même, c'est que c'est pas toutes les versions 5 qui vont être patchées, et seulement le 5 à partir du 5.4. Bon, je reste perplexe, mais j'espère que les gens qui ont des vieux Linux en 2038 seront passés à la 5.4.
Non, juste pour ça, il y a tout un tas d'explications techniques qui est un peu trop pointu pour moi sur le pourquoi c'est pas backporté sur d'autres versions du kernel.
Ok, bah du coup ouais, non, c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive. Ça fait aussi penser que c'est pas le tout de créer du code, faut le maintenir, parce qu'au final ça finit forcément par un problème, même si on a une bonne qualité de code. Donc c'est toujours bon à rappeler. C'est vrai que j'en avais entendu parler, j'avais peut-être vu la news rapidement sur des threads Reddit, mais j'étais pas rentré dans les détails, et c'est assez intéressant comme problématique, une problématique qui changera jamais. Faut gérer le temps, faut gérer des choses comme ça. Donc non, c'est très intéressant. Après je me note quand même les dates, et je vous conseille de les noter aussi, et de décaler toutes vos astreintes si elles sont prévues sur ces jours-là. Parce que bon, on sait jamais, on sait comment c'est, il restera toujours un petit serveur de côté qui aura ça et qui bien sûr gérera quelque chose de très important qui sera interconnecté à tout. Donc voilà, personnellement je me note la date et j'enlève mon astreinte le jour là.
je suis d'accord pour le problème d'astreinte.
Je pense que je ferai plus d'astreinte en 2038. Eh bien, on va pouvoir passer à notre débat et discussion de la semaine. Enfin, du mois, plus exactement. Aujourd'hui, on va discuter de comment est-ce qu'on organise une migration sur le cloud public et comment est-ce qu'on se prépare. Alors, la première question qu'il faut aborder quand on va faire une migration dans le cloud public, c'est d'où est-ce qu'on vient ? D'où est-ce qu'on part, en fin de compte ? On va aller dans le cloud public, mais c'est quoi le point de départ ? Donc on a beaucoup de cas comme les applications monolithiques, les applications monoservices, etc., etc. Est-ce qu'on vient d'un serveur dédié, est-ce qu'on vient d'un cloud privé? Du coup, Damir, toi, est-ce que t'as des conseils à donner justement pour se poser ces questions-là?
Alors oui, il faut savoir vraiment d'où on vient, donc comme tu disais, les différentes solutions, il faut aussi connaître son niveau de maturité. Parce que c'est pas le tout de se dire on a fait du microservice, mais derrière on n'a rien qui est versionné, c'est un peu fait à l'arrache avec beaucoup de choses à la main. Il faut vraiment voir où on en est niveau maturité, parce qu'on peut avoir des niveaux de maturité qui sont très différents. On peut avoir un monolithe qui est entièrement sur un serveur pour des raisons métiers ou autres, mais qui est parfaitement en infra as code et tout, qui sera beaucoup plus simple à séparer et à améliorer qu'une application en microservice qui a été faite au tout début de Kubernetes, où les gens tâtonnaient un peu, il y a quelqu'un qui a fait ça à la main, quelqu'un qui a refait ça à la main, quelqu'un qui a fait ça avec un framework YAML qui est plus supporté. Donc je pense qu'il y a vraiment ce niveau de maturité aussi à avoir, et le contexte là-dessus. Et une fois qu'on a ça, on peut commencer à réfléchir du coup à notre plan d'action pour aller sur le cloud public, et surtout comment. Je pense qu'on va un peu l'aborder après, le comment et les choses auxquelles il faut faire attention. Mais je pense que voilà, la première chose pour moi, c'est vraiment le niveau de maturité. Si on a de l'infrascode, si on a de l'industrialisation, si on a des choses qui sont respectées. Donc ça, c'est pour moi, c'est une question très importante. Après, je sais pas si Erwan, toi, t'as d'autres choses que tu vas surveiller en priorité.
Non, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Et moi, je rajouterais aussi au niveau de la préparation, que c'est pas un sujet juste ops entre guillemets, que c'est un vrai sujet technique qui va impacter tous les différents corps de métier de l'équipe tech, aussi bien les devs, parce que probablement qu'il y aura des choses à revoir pour préparer ce genre de migration, que les ops, etc. Et enfin, moi, j'ai jamais eu trop l'occasion de faire des grosses migrations comme ça dans le cloud, mais par contre, des retours que j'ai eu de potes et d'anciens collègues, c'est que justement, on avait un peu tendance à dire que ah bah tiens, migrer dans le cloud, ça va être juste reproduire ce qu'on a ici ailleurs. Bon, bah, c'est un boulot pour les ops, et on les laisse les faire dans ce coin. Et pour moi, ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur la maturité des équipes, puisque le avoir conscience de ça, déjà, je pense que ça aide à faire en sorte que le sujet soit un problème commun et pas juste un truc comme ça dans un coin.
C'est vrai que chez nous, on fait des migrations dans le cloud et on commence en fait par auditer l'intégralité de ce qu'a les clients, c'est-à-dire l'application, l'infrastructure, le code et les méthodes d'organisation des équipes, savoir comment est-ce qu'elles fonctionnent, est-ce qu'elles sont agiles ou pas. Et en effet, en faisant un audit complet, on peut savoir si on peut aller dans le cloud, parce que si on n'est pas préparé à aller dans le cloud, ça sert à rien de lancer une migration. Il faut d'abord commencer à travailler, à s'outiller et à avoir les bonnes pratiques et, comme tu le dis, une intégration continue, peut-être créer de l'infra as code, etc. pour justement pouvoir aller dans le cloud public. Et le monolithe n'est pas un problème en soi, hein. On peut faire du monolithe dans le cloud, hein. J'avais vu une conférence, je vous retrouverai le lien, qui parlait justement des monolithes versus les microservices, et c'est pas forcément aussi automatique que ce qu'on pourrait penser. Une fois qu'on a fait un état des lieux d'où est-ce qu'on vient, qu'on a une bonne vision d'où est-ce qu'on vient, la question à se poser, c'est peut-être pourquoi est-ce qu'on veut aller dans le cloud public? Parce que finalement, si les choses marchent bien telles qu'elles sont, pourquoi est-ce qu'on irait dans le cloud public? Redéfinir ce pourquoi, c'est intéressant pour savoir qu'est-ce qu'on va devoir redévelopper ou pas. Erwan, est-ce que tu as des conseils là-dessus, s'identifier ce pourquoi est-ce qu'on veut aller dans le cloud public? Est-ce que toi, tu as des pistes sur les raisons qui peuvent nous faire aller dans le cloud public?
Bah, les deux raisons faciles que je vois, c'est profiter de tout un tas de services qu'on maîtrise pas forcément, mais dont on aurait besoin, et de profiter des services managés que peuvent offrir du coup ces plateformes. Je vais prendre un exemple tout bête, mais par exemple une base de données un peu costaud à devoir répliquer sur plein de points de présence, bon bah c'est peut-être probablement plus facile d'avoir de opter pour une solution managée par AWS, Azure ou Google pour faire ça, plutôt que de soi-même devoir mettre en place l'infrastructure, les configurations, le réseau, le monitoring pour mettre en place ce genre de solution. Donc moi je vois comme premier argument profiter de ce genre de service.
C'est vrai qu'il y a un deuxième argument aussi qui peut venir qui vient compléter ça aussi, c'est de se dire qu'on va déporter quand même une partie du travail qui est aussi notamment la gestion de ce service, donc sa maintenance, les mises à jour, les choses, c'est quand même quelque chose qu'on déporte à quelqu'un d'autre, donc on va économiser du temps sur les équipes. Donc on a des petites équipes et on sait aujourd'hui dans notre contexte que c'est très dur d'avoir beaucoup de gens qualifiés ou même si c'est pas très dur, ça va coûter très cher. Bah souvent le cloud en fait il est aussi utilisé pour ça, pour se dire toute la partie un peu run chiante de mise à jour des middleware, des choses comme ça, on va dire c'est AWS qui l'a fait. Nous on va essayer de se concentrer sur faire plus de choses sur les services un peu plus haut. Donc c'est quelque chose qui complète vraiment ce point-là. Après il y a un autre point que je vais aborder, c'est aussi pour la mise à l'échelle, si je le dis en français, pour des applications aujourd'hui qui évoluent très vite, qui ont un grand nombre d'utilisateurs, et c'est pas toujours facile, on va dire, humainement et techniquement, de se dire je vais raquer 10 serveurs en plus parce que j'ai besoin d'augmenter la puissance de mon application. Donc on va pouvoir se dire au moins sur le cloud c'est à la conso, donc si demain j'ai besoin de 30 serveurs parce que cas classique qui arrive très souvent en entreprise, demain on a entendu la com elle nous dit on va passer au JT de TF1, avec le cloud on va très facilement pouvoir scale, alors que sur une infra, si on prend vraiment le truc à l'ancienne en interne avec des serveurs physiques et peut-être un peu de virtu mais quand même beaucoup de physique, on va être très vite limité, on va se dire là en fait il faut racheter du matériel, ça prend tant de semaines pour être commandé, passer par les achats, après il faut l'intégrer, des choses là. Donc là je pense que ça peut être intéressant, et je sais pas si toi Christophe, il y a un autre point important qui viendrait compléter tout ça?
Alors oui, en effet, l'élasticité, c'est super important. L'exemple que tu cites, je l'ai vécu en fait. J'avais créé une infrastructure justement pour un client, et ce client-là passait un soir sur TFA et il m'a demandé « Ah Christophe, là on va avoir beaucoup de visites, est-ce que pendant 3-4 heures on peut augmenter le nombre de serveurs ?» Et moi j'ai fait « Ouais, il n'y a pas de problème, on va passer de 1 à 4 serveurs, et puis voilà, enfin on avait 2 serveurs. » Donc on a augmenté à 4 serveurs, on a pris des serveurs un peu plus gros, et puis c'est passé comme une lettre à la poste. Pour moi, je vois deux autres raisons. La première, c'est pour la haute disponibilité, ce qui rejoint un peu l'élasticité, c'est-à-dire que on veut avoir un service qui est disponible tout le temps, et pour ça il va falloir redonder des choses, et c'est beaucoup plus facile de le faire avec un cloud public. Alors je dis pas que c'est pas facile de le faire avec une infrastructure classique, hein. J'ai juste que c'est plus facile de le faire. Ce qui rejoint la haute disponibilité, c'est justement le fait de supporter un nombre de visites important. Parce que ça, c'est un indicateur qui pour moi est essentiel. Il faut passer au cloud à partir du moment où, si on est sur un serveur dédié, bah, notre serveur dédié ou nos services sur le serveur dédié n'arrivent plus à suivre et qui tombent régulièrement. Et là, il n'y a pas de 36 solutions, il faut passer au cloud, faire plusieurs frontaux, avoir une base de données managée, comme vous le dites, et voire carrément utiliser que des services managés. Ça, c'est une vraie plus-value. Souvent, d'ailleurs, je vois les éditeurs de solutions, ils ont pas beaucoup d'ops. Donc le fait de pas avoir beaucoup d'ops, c'est aussi pour moi une raison de passer sur le cloud public avec des services managés. Parce qu'il y a beaucoup de devs, mais finalement il y a encore assez peu d'ops. Je sais pas quelle est votre perception là-dessus.
Ouais, moi je suis assez d'accord. Passer dans le cloud, c'est aussi se retirer de certaines tâches récurrentes de run. Et donc quand tu manques de ressources ops pour t'en occuper, bah ça peut être intéressant effectivement de faire un mouvement vers le cloud pour ça. D'ailleurs, c'est essentiellement pour ça que t'as beaucoup de startups qui, alors on met sous le tapis les histoires de crédits qu'elles peuvent récupérer, etc., mais t'as beaucoup de startups qui commencent directement dans le cloud parce que souvent les équipes, bah, c'est des équipes de dev qui doivent aller vite, qui veulent pas se prendre la tête à monitorer, à faire des backups ou j'en sais rien, et puis même à s'occuper de l'infra en général, elles veulent aller vite, et pour toutes ces raisons, les solutions cloud peuvent être une bonne approche.
Mais c'est vrai qu'il y a un point, du coup, j'y pense, qu'on peut aussi du coup rajouter à tout ça, c'est tout simplement, je dirais, l'agilité. Dans la mesure où demain vous êtes, moi je sais que j'ai beaucoup de cas où je suis des clients qui sont un peu gros. Vous avez un centre qui va fournir des services et vous avez des équipes de projets, etc. Si demain vous avez une plateforme assez classique, même si on part sur quelque chose d'un peu moderne avec du cloud privé, ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide des fois, souvent avec des gros acteurs du cloud public qui vont fournir beaucoup de solutions managées pour les équipes. Parce que je prends un cas très simple, demain vous avez une équipe de big data, elle dit bah moi nous on a assez nouveau, on veut aller vers la data, on voudrait mettre en place un data leak ou un truc comme ça. Ben, si jamais vous êtes dans une organisation classique, ça va remonter aux équipes d'infrastructure et on va leur dire ben, faut que vous appreniez, que vous montiez en compétence sur tel techno pour mettre en place le middleware, le gérer, le superviser, gérer le run et tout ça. Donc ça a demandé un très gros coût humain. Alors que sur un truc, une solution cloud publique, bah souvent vous allez un peu laisser un peu plus de liberté aux équipes, vous allez dire bah vous le gérez, de toute façon souvent vous avez aussi you build it, you run it. Donc on va dire bah écoute, fais ce que tu veux, on t'offre, on surveille un peu ta consommation de crédit et les choses là, mais du coup tu lances ton service, tu le testes, tu le gères, mais tu gères le run aussi, mais du coup ils vont être plus libres là-dessus, ils vont peut-être être un peu plus agiles du coup, parce qu'ils vont pouvoir faire tourner les solutions plus vite, ils vont pouvoir plus vite tester, itérer, s'améliorer, donc c'est un aspect aussi je pense qui peut être intéressant dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, et qui séduit notamment les grands groupes souvent où bah, dans les process classiques il fallait demander des VM, ça prenait des mois parce qu'il fallait que ça passe par les achats, etc. Donc ça rajoute beaucoup de fluidité là-dessus aussi. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier comme point.
Mais là, tu parles carrément d'une transition DevOps pour les grosses entreprises.
Le cloud public est très lié au DevOps, on va pas se le cacher. Même le cloud en général est très lié au DevOps. Hein. C'est un outil, c'est un des plus gros outils du que le DevOps a aujourd'hui. C'est le cloud. On va pas se mentir. Souvent, c'est une grosse base des gros projets DevOps. Même si on peut faire du DevOps sans faire de cloud, hein, je dis pas du tout qu'on est obligé d'avoir les deux, mais souvent, quand on dit on va partir sur une stratégie DevOps, on va faire reposer une partie technique sur le cloud. Comme je dis, parce qu'il y a de l'agilité qui est amenée.
Je suis assez d'accord. Une fois qu'on a défini le pourquoi et qu'on sait d'où on vient, il faut travailler sur nos applications. Donc si on n'a pas fait l'audit d'application dont je parlais au moment de regarder d'où on vient, bah, il faut le faire quand même. Parce que une application, quand on va vouloir la migrer dans le cloud, on peut pas la prendre et hop, l'acheter sur le cloud, ça c'est pas possible. Alors, et quels sont vos petits tips ou ce que vous regardez dans les applications pour voir si on peut faire une migration dans le cloud avec certaines applications? Erwan, je te laisse la parole.
Voilà, vague sujet. Je saurais pas. Je vais pas mentir, comme c'est des sujets que j'ai jamais trop traités, vu que je travaille essentiellement sur des boîtes où il y a tout à faire, donc j'ai pas trop de notion de transition comme ça, donc j'ai jamais eu l'occasion de faire des audits, mais effectivement je pense que le premier réflexe que beaucoup de gens doivent avoir quand ils envisagent de migrer sur le cloud, c'est de se dire bah tiens, on va refaire exactement la même chose que ce qu'on a actuellement, mais on va le dupliquer directement là-bas. Ce qui pourrait être quelque chose de raisonnable, parce qu'on se dit bah on a quelque chose qui fonctionne là, bah ça, si on reprend le même type d'archi, ça va fonctionner ailleurs, mais du coup on profite pas de si on fait que ça, on va pas profiter de tous les avantages qu'on a cités sur le pourquoi c'est intéressant de bouger là-dessus. Donc ce que je regarderais si j'avais des choses comme ça à faire, c'est que je regarderais directement s'il y a des briques qui sont faciles à bouger dans alors bien sûr si c'est des gros monolithes, c'est peut-être pas aussi évident, mais en tout cas de voir si on peut pas commencer par des choses, par exemple un serveur de fichiers statiques, si on peut pas le mettre dans par exemple sur un S3, si on peut pas justement pas petite brique par petite brique les voir s'il y a des choses qui peuvent être bougées et remplacées par des briques managées ou en tout cas mieux adaptées dans le cloud que ce qu'on a actuellement. Mais je pense que Damir est bien mieux bien, enfin, elle est plus habituée que moi à ce genre d'exercice, donc du coup, je suis tout ouïe.
Du coup, oui, effectivement, je pense que t'as tout à fait raison. On a aujourd'hui souvent des équipes qui se disent, ben, on va aller dans le cloud, et surtout des grosses entreprises, il faut qu'on mette tant d'applications sur le cloud, et bien sûr, quand tu veux mettre plein d'applications sur le cloud, qu'est-ce que les équipes font? Elles font ce qu'on appelle du lift and shift, c'est-à-dire elles prennent ce qu'elles ont en on-premise, elles font un copier-coller sur le cloud. Je pense pas que ce soit la bonne approche pour plusieurs raisons. Bah, comme Erwan le disait, je pense que la première, c'est qu'on profite pas simplement des bénéfices du cloud public. Je pense que c'est une raison de coût. On va pas se le cacher. Si c'est pour faire la même chose que ce que vous faisiez avant sur du cloud public, vous allez avoir une facture qui va exploser et vous allez avoir le secteur des achats qui va venir vous voir et vont faire ouais, nous on nous a parlé de FinOps, d'optimisation des coûts, c'est pas vraiment ça. Donc du coup, il y a cette problématique qui est super importante, c'est n'allez pas sur le cloud public dans l'idée de se dire on va faire un copier-coller. Faites pas du cloud public, vous avez d'autres solutions qui sont sûrement plus adaptées à ce que vous faites. Ensuite, moi, les choses que j'ai tendance à regarder du coup en premier, c'est comme je dis le niveau de maturité, donc voir s'il y a déjà de l'infra as code, s'il y a déjà de l'industrialisation, s'il y a ces choses-là sur lesquelles je vais pouvoir me baser, on va dire, pour améliorer les choses, pour le redécouper, pour passer des choses sur du service managé. Ensuite, je vais regarder quelque chose qui peut paraître tout bête, mais c'est simplement les versions des soft et des middleware utilisés. Pour vérifier si s'il y a des choses qui sont trop vieilles qu'il va falloir mettre à jour, si jamais on va pouvoir utiliser Service Manager, parce que par exemple si on utilise du Postgre mais on utilise un très vieux Postgre, c'est pas sûr qu'il soit supporté sur du cloud public. Donc je vais commencer à regarder toute cette chose là pour déjà voir s'il y a des nécessités de redéveloppement un peu plus gros. Parce que souvent dans les migrations, il y a rarement de grosses équipes de développement dédiées. Donc je vais regarder un peu ces besoins-là et me dire que bah, si demain on a besoin de mettre à jour PostgreSQL, bah, il va peut-être avoir un peu de redéveloppement à faire. Donc je vais signaler un peu tout ça. Pareil si c'est des versions de middleware. Ensuite, je vais regarder un peu toutes les dépendances du projet. Donc s'il y a des grosses dépendances en interne, des choses comme ça pour l'interconnexion. Je vais regarder aussi après, du coup, dans la dépendance, tout ce qui est CI, CD, est-ce qu'il y en a, comment ça se passe, comment ça marche, est-ce qu'elles sont compatibles avec le cloud dans la mesure où est-ce que les flux sont ouverts, est-ce que les RSSI ont validé, des choses comme ça. Et aussi, tout simplement, les données. Ça, c'est quelque chose qui me paraît très important. C'est que le cloud public a plus grande raison, le cloud public américain. Pour moi, il faut pas envoyer tout et n'importe quoi dessus au niveau de la data. Il y a le Cloud Act et des choses comme ça. Mais il y a On en a déjà parlé dans certains épisodes de Souveraineté et dans des épisodes solo de Christophe. Donc je pense qu'après, il faut regarder vraiment la partie données. Si on n'a pas d'informations vraiment sensibles, pas d'informations qui seraient peut-être un peu dangereuses à mettre sur du cloud, et s'il y a vraiment des informations trop sensibles, bah, j'ai tendance à dire plutôt no go, hein, et ça m'arrive souvent de voir des choses avec des applications sensibles où on hésite à les mettre dans le cloud, et au final on se dit bah non, c'est trop sensible, on les mettra pas dans du cloud public. Donc voilà, ça c'est les points que je vais regarder. Après toi, je sais pas, Christophe, si t'as un petit point ou un petit tips pour ça qui te paraît plus pertinent l'un que l'autre.
Ouais, moi la première chose que je regarde dans l'application, c'est si elle est cloud ready. Et si elle est cloud ready, pour moi, il y a un truc qui est évident, c'est de regarder si elle respecte les 12 facteurs. Donc les 12 facteurs, ça permet de vérifier que notre application, elle pourra bien être déployée dans le cloud sans problème. Notamment, le premier qui me vient et ce qui est le plus important que je regarde en premier, c'est est-ce que l'application, elle stocke des données sur le serveur? Est-ce qu'elle est stateless? Est-ce qu'elle est sans état? Si elle n'est pas sans état, il faut déjà commencer par la rendre sans état et puis à ne plus stocker des choses sur le serveur. Parce qu'on sait très bien qu'en fait, c'est très facile de stocker des données, des sessions, des images sur le serveur et ne pas se poser de questions. Et si on le fait, on ne peut pas l'envoyer dans le cloud. Parce que si on fait ça, en l'envoyant dans le cloud, vu que en fait, dans le cloud, déjà nos serveurs ils sont plus nombreux. Bon, on sait pas où va être stockée l'information, sur quel serveur, et puis surtout si le serveur il tombe, en théorie c'est pas grave, on en lance un et puis voilà. Sauf que s'il tombe et que les données sont dessus, ben on les perd. Et alors là on peut pas aller dans le cloud avec des applications comme ça. Pour moi ça c'est essentiel, et comme tu dis, je vais reprendre ton expression, c'est no go si jamais l'application respecte pas les 12 facteurs, et dans ce cas-là, il va falloir travailler à la faire respecter. Ah, une fois qu'on a fait le tour, justement, qu'on a bien amélioré nos applications et qu'on sait à peu près d'où on vient et pourquoi on le fait, bah il faut définir le où on va. Donc définir l'infrastructure cible, puisque maintenant qu'on a l'application, qu'elle est bien cloud ready, eh ben comment est-ce qu'on va la déployer? C'est quoi les briques de base, etc. Et alors là, on a plusieurs choses. Toi, Damir, qui a l'habitude, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais en fait dans ces moments-là que tu définis l'infrastructure cible?
Bah alors je vais me servir justement de la précédente étape qu'on citait pour construire, pour voir déjà ce qui est possible de passer en SaaS manager, parce que pour moi c'est l'intérêt du cloud public. Donc je vais voir voilà, ce que je peux mettre en service manager. Comme tu le disais aussi, faire peut-être un petit inventaire de ce qui est possible, ce qui est stateless ou pas, c'est-à-dire ce que je vais avoir du mal ou pas à mettre dans de l'autoscaling group, peut-être dans du Kubernetes, dans des choses comme ça. Donc ça, je vais un peu faire réutiliser bien sûr mon inventaire pour construire une infrastructure cible, et je vais essayer de me coller en fait les différentes de coller au maximum tout ce qui peut l'être dans du service manager, toujours en faisant gaffe à garder les aspects de sécurité, parce que le cloud c'est quand même sécurisé. Je parle bien de sécurité, pas de privacy, c'est vraiment différent. Donc c'est sécurisé, mais c'est comme tout. La sécurité, c'est à notre charge aussi, donc faut prévoir ça de notre côté. Donc je vais essayer de voir comment sécuriser tout ça, bien avec quels flux sont identifiés, construire mes différents service managers, surtout mettre en place, je dirais, de tout ce qui est infra as code et tout ce qui est bonne pratique dès le début. Parce que si on ne le met pas en place au début, on sait comment ça se passe. Il y a toujours manque de budget, manque de temps et des choses comme ça. Donc dès le début, mettre en place les bonnes choses. Et surtout, dans les migrations comme ça. En général, en tout cas dans mon cas, j'ai plus tendance à faire le design, on va dire, de l'application, de l'infrastructure et le build de celle-ci. Mais je fais quasiment pas de run. Donc je vais avoir aussi une partie qui est très importante pour moi, c'est le monitoring. Donc prendre pas mal de temps pour monitorer, parce qu'on va pas forcément monitorer de la même façon, on va pas donner les mêmes métriques, et surtout accompagner les équipes d'ops ou de gestion, en tout cas des incidents, sur ces nouvelles infra, bien documentées, leur expliquer comment ça marche, leur donner aussi d'un peu des endroits où se rattacher, mais leur dire, là au final ton RDS, tu vois, ça a peut-être un nom super technologique, c'est propos sur du Terraform et tout ça, au final dedans c'est un Postgre qui est sur une EC2, même si tu le vois pas, ça reste un Postgre sur une VM. Donc faire des choses comme ça pour un peu accompagner les équipes, parce que je pense que c'est important, surtout pour moi qui suis consultant. Donc quand j'arrive dans une entreprise, je sais que je suis là pour aider, mais je sais que ma mission, elle a pas pour but de rester des années, et c'est pas dans mon objectif et pas dans celui du client. Mon but, c'est que je refais sa maison, je lui donne les clés, je lui dis maintenant t'as les clés, tu peux l'entretenir toi-même, c'est voilà, c'est chez toi. Donc je pense que c'est vraiment une partie assez importante. Ensuite, il y a aussi la partie, bien sûr, FinOps, comme on l'appelle. Donc maîtriser ses coûts. Alors c'est pas forcément ne pas avoir de coûts FinOps, c'est les maîtriser. C'est-à-dire, on a cette application, on sait que ça va nous coûter dans tel range, et on surveille que ça dépasse pas, parce que ils ont votre numéro de carte de crédit, du moins au-dessus de votre entreprise. Ça peut aller extrêmement vite, les factures, hein, on le sait. Donc voilà, ça c'est les choses que c'est un peu ma manière de procéder, ma vision de la chose. Toi, je sais pas, du coup, Christophe, Erwan, je sais moi. Peut-être Erwan aussi, si tu vois quelque chose pour définir une infrastructure de quelque chose qui est existant, ça peut être intéressant de voir l'avis de quelqu'un qui a pas forcément fait beaucoup l'exercice.
Il y a un truc que t'as cité et qui moi me paraît mandatory, et c'est vraiment là-dessus que je me forcerai à faire des efforts, c'est de suite mettre les bonnes pratiques, en partie celles qui concernent l'infra as code, parce que c'est sûr que si on commence à faire des choses à la main, etc. Le coût de retranscrire tout ça à un moment, peut être hyper hyper délicat, et du coup, même si c'est démarrer quand on doit juste cliquer sur une interface pour créer des trucs et tout, ok, c'est super, on peut aller hyper vite et ça c'est cool. Mais par contre, et je comprends que du coup on souhaite pas forcément prendre du temps à démarrer sur du Terraform, où là il faut quand même créer pas mal de petites choses avec si on veut faire le truc proprement avec de la CI/CD, etc. Et ça, je pense que quand on définit son infra cible, c'est hyper important, parce qu'en plus ça permet d'avoir une vision à mon avis très clair de des choses qu'on va vraiment avoir besoin pour faire son infra, et du coup pour la review, etc. Je pense que c'est, enfin, il y a un coup de démarrage qui est important à tout de suite pas faire de l'infra as code, mais qui me paraît hyper hyper important pour la suite d'un projet de cette envergure.
Alors merci, parce que du coup ça va faire une transition parfaite. Erwan a dit beaucoup de choses déjà, donc il me reste plus grand chose à dire, mais en effet, pour moi, il y a l'étude des briques de base, est-ce qu'on peut les passer en service managé, ça c'est essentiel. Le design de l'infrastructure, mais surtout la partie coût, elle est importante. Il faut vraiment avoir en tête que faire une migration sur le cloud public, vous le faites pas pour économiser du coût d'infrastructure. Ça doit pas vous motiver, enfin c'est pas ce qui doit vous motiver pour aller dans le cloud public, parce que si c'est ce qui vous motive pour aller dans le cloud public, le faites pas, parce que ça vous coûtera plus cher. Ça vous coûtera plus cher et donc ce sera pas intéressant. Vous direz, ah mais le cloud public, d'ailleurs on voit plein d'entreprises qui quittent le cloud public parce que ça leur coûte trop cher. Non, faites-le pour les raisons qu'on a évoquées plus tôt, c'est-à-dire la haute disponibilité, l'élasticité, les services managés, avoir moins d'ops peut-être. Donc la partie coût, elle est essentielle, et il faut étudier les fournisseurs et faire une estimation des coûts de l'infrastructure, mais surtout, et c'est là que ça coûte le plus cher, faire une estimation des coûts de migration, combien ça va vous coûter de prendre des consultants pour vous aider à faire la migration, d'embaucher des personnes qui connaissent en fait le cloud parce que vous le connaissez pas, ou même le temps de développement de tout ce qui est l'aspect infrastructure ou l'aspect redesignons notre application parce qu'elle est pas cloud ready, elle est pas faite pour aller dans le cloud, et ben tous ces coûts là il faut les estimer, même si c'est très dur d'estimer une migration dans le cloud, il faut quand même prévoir un certain budget, et comme on dit, c'est un investissement, et c'est un investissement comptable aussi, ça veut dire que Faut pas le voir comme un coût, mais faut le voir comme un investissement comptable, ça s'amortit. En tout cas, moi, c'est ce que je dis à mes clients. Mes prestations, c'est des prestations comme des prestations de dev. Vous pouvez les amortir sur plusieurs années, parce que c'est du code que je vous fournis, donc il n'y a pas de souci. Et il faut aussi prévoir une supervision, mais une supervision des coûts. C'est-à-dire que quand vous mettez en place votre supervision, eh ben supervisez aussi vos coûts d'infrastructure et remontez des alertes si jamais ça vous coûte plus cher que ce que vous aviez prévu. Il y a peut-être un problème quelque part. Je vais vous laisser la parole un petit peu, Damir et Erwan, pour faire un petit tour de clôture, parce que je pense qu'on a quand même bien déplié le sujet. On parlera quand même dans un prochain épisode de l'infrastructure as code et le cloud public. Je pense que c'est important de parler des deux à la fois. Donc Damir, je vais te laisser la parole.
Alors oui, c'est vrai c'est un sujet très intéressant. On a peut-être il y a peut-être certains points qu'on pourra encore aborder pendant des heures mais ça serait un peu long. Faites aussi attention quand vous allez sur du cloud public à une chose qui peut être très bête, mais que je vois encore trop souvent cette erreur, c'est que vous allez avoir d'une manière ou d'une autre un minimum de vendor locking. C'est pas parce que Terraform est compatible avec OVH, avec Scaleway, avec AWS et avec Azure que vous n'allez pas devoir tout redévelopper. C'est pas les mêmes providers, c'est pas les mêmes fonctionnements. Donc c'est pas parce que vous êtes avec du Terraform sur AWS que vous pouvez changer de cloud fournisseur comme vous voulez. Donc réfléchissez bien où vous allez, pourquoi vous y allez comme on l'a dit, et faites les choses voilà proprement documentées, et il n'y a pas de souci que ça se passe mal. Si vous êtes consultant, accompagner les gens, je pense que c'est important, c'est encore une fois, c'est le DevOps, accompagner les gens en montant en compétences, leur expliquer comment ça marche, que tout le monde comprenne, donc ça c'est très important, et voilà, et puis après je pense que il n'y a pas de souci, ça peut rouler.
Moi comme j'ai dit, j'ai eu l'occasion de faire sur des grandes échelles, mais par contre une chose est sûre, c'est que quelle que soit l'ampleur du projet, je pense qu'il faut vraiment y aller par étapes et de façon humble, en commençant par les briques les plus simples à bouger et en se rodant là-dessus avant de faire des choses plus ambitieuses et plus complexes. Et aussi je pense que ça a été cité plusieurs fois par vous deux, mais la notion de coût, elle est vraiment pas à négliger, et je pense que effectivement, un peu dans l'imaginaire collectif, il y a un côté un peu genre non mais c'est trop bien le cloud, on va pouvoir éteindre les machines le week-end, on va faire des économies. Et effectivement, si c'est pour ça que une migration est envisagée, je pense pas que ça soit vraiment la bonne chose à aborder, quoi.
Eh ben, merci encore à tous les deux pour cette discussion qui a été prolixe, puisque nous atteignons l'heure. Si vous avez des questions que vous voulez qu'on aborde, vous pouvez les poser sur question.compagnon-devops.fr. Et écoutez, on a déjà plein de sujets, mais allez-y, rajoutez-en, parce que parfois on manque d'idées. Donc si vous voulez, allez-y. Pareil, si vous voulez participer au podcast, comme je vous l'ai dit, il est complètement remote, donc il n'y a pas de souci, quel que soit l'endroit où vous habitez, on pourra vous trouver une place, donc venez sur la communauté des compagnons et venez en discuter avec nous, on vous fera une petite place, il n'y a aucun souci. Écoutez, je vous laisse un petit mot de la fin, et puis moi en tout cas je vous dis à très bientôt.
Bon confinement.
Voilà, bonne fin de confinement, et merci à vous.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. La balade de diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Si l'épisode t'a plu, note-le. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, cela nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement beaucoup plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, le plus simple, c'est que tu rejoignes la communauté des compagnons du DevOps. Le lien est en description. À bientôt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.